Showtime arrive sur Radio Larzac.
Ok, on y va. Showtime, générique, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Showtime, votre émission du partage de la passion du cinéma, de la pop culture et des cultures de l'imaginaire sur Radio Larzac. Pour cet épisode du mois de juin, qui est le dernier épisode de cette 8e saison, je vous propose toujours en condition de faux direct, le programme qui suit. Vous trouverez en première partie donc de l'actu, suivra ensuite les suggestions, puis vous aurez droit à deux avis sur deux films qui sont sortis tout récemment en salle, dont un assez récemment. Le premier avis de ce mois de juin portera donc sur Détective Conan Scarlet Bullet et le second avis du mois sera sur le terrifiant ou pas, on va le découvrir ensemble, Conjuring sous l'emprise du diable. Ceci étant dit, j'en ai pas plus à vous dire, je dis donc que Showtime saison 8 et épisode 9, c'est parti. Alors, je vais pas trop m'étaler parce que je sais pas vraiment si mes propos vont être assez longués ou pas. Donc, sur ce, sans transition, je vous propose que l'on passe à l'actu. L'actu du mois. Ce mois-ci dans l'actu, je tenais à vous parler de pas mal de petites choses, hein, parce qu'il y a quand même une certaine actualité ciné qui se présente, malgré bon que il y aura ça va se je vais y venir en dernier point. Voilà, hein, c'est toujours un petit peu le principe. Moi, là, tout du long de cette saison, j'y suis revenu à de nombreuses reprises, mais oui, cinéma versus plateforme de SVOD, hein, vidéo à la demande en streaming, enfin bref. Je vais revenir ça dans la dernière news du mois qui a son importance. Après, j'ai fait une petite sélection. Bon, par exemple, hein, James Bond, hein, Mark Strong qui explique comment il a raté un hall à cause d'une cuite. Hein. Bon, bref, c'est une petite anecdote, hein, c'est pas vraiment une news, mais c'est encore plus marrant lorsque l'on apprend qu'il a loupé son rôle, entre autres, à cause d'une cuite, une soirée très arrosée avec Daniel Craig, l'actuel James Bond en date. Ensuite, on a eu le 4 juin une petite révélation sur le nouveau costume de Zachary Levi dans le prochain Shazam Fury of the Gods, que l'on appellera, sobrement, non, c'est quoi le mot déjà ? Sobrement, Shazam 2. Et à côté de ça, hein, on peut voir quelques débuts de photos de Dwayne Johnson en Black Adam. Et c'est dingue, hein, quand on voit les photos de l'entraînement physique qu'il est en train de se faire. Oh là là, hein, franchement, c'est guibole. Enfin bref, si vous êtes curieux, allez voir. Mais bon, bref, on a des photos, hein, des costumes de Shazam 2 et de Black Adam. Voilà, des premiers aperçus. Ensuite, il est attendu pour courant de fin juin. J'ai plus la date exacte de sa sortie en France dans les salles ou sur Disney+, où ça sera en même temps, je ne sais pas vraiment. Mais je crois que c'est le 23 juin, si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, Cruella aura droit à une suite. Hein, c'est le 23 juin. Cruella aurait bien droit à une suite validée avec toujours Emma Stone dans le rôle titre. Je suis curieux de voir ce film dont on entend des critiques assez positives et qui serait, selon ce qui peut se dire, un peu une sorte d'anti-Disney. Pourquoi pas, hein, ça rend curieux. Bon, là, on va se diriger un petit peu vers les plateformes de SVOD, notamment avec Netflix, hein, avec Jupiter Legacy, hein, qui a été annulé après une première saison. Ça n'a pas eu le succès escompté. Hein. Faut dire que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire une série à la The Boys. The Boys, justement, qui continue la promo de sa saison 3 en ayant dévoilé il y a quelques jours hein, ben, des photos du Soldier Boys hein, incarné par Jensen Ackles de Supernatural. Il y a The Flash aussi qui commence enfin à faire parler de lui, hein, un film qui sera tourné par André Muschietti, le réalisateur à la barre des SA chapitre 1 et chapitre 2 qui sont sortis dernièrement. Ici, on verra le Flash se confronter au multiverse de DC, hein, même DC va s'y mettre. Et justement, dans ce film, on va y retrouver comment il s'appelle le petit jeune l'acteur Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen. On va retrouver du coup Monsieur Julien Lepers, Michael Julien Lepers Keaton dans le rôle de son Batman hein, de Tim Burton. Il va être de retour et c'est justement ça qui a mis un peu le feu aux poudres hein, de cette news. C'est-à-dire que André Muschietti a dévoilé une photo justement du costume de Michael Keaton avec le bat symbole jaunâtre hein, comme à la bonne époque avec taches de sang, qui sont pas sans faire appeler le badge des Watchmen. Donc, qu'est-ce que tout cela présage ? Il y a ensuite Indiana Jones 5, qui est enfin en tournage. On a une première photo hein, de Harrison Ford sur le plateau de tournage, avec, bien entendu, un geste barrière, tout ça, avec un masque, etc., etc. Et pour finir, la plus grosse news, la news qui fait le plus mal, elle date du 26 juin. Autant toutes celles que je vous ai lues, ça date début juin, voilà. Mais ici, pardon, cette news date du 26 mai. Mais Amazon rachète MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, waouh, et la saga James Bond pour une somme astronomique de 8,45 milliards de dollars. Allez, ça y est, on y est reparti. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour les prochains James Bond ? De ce que j'ai cru comprendre, Mourir peut attendre va bien sortir en salle, mais qu'est-ce que ça va amener pour la suite ? Déjà, il y a certains scénaristes des derniers James Bond qui sont en train de dire « ça risque peut-être de faire mal ». Et il y a même les ayants droit actuels des droits hein, de James Bond qui sont en train de faire en sorte que la saga James Bond reste tout de même cantonnée au cinéma, faire en sorte que il y ait pas de James Bond qui arrive en série ou en mode un petit peu comme c'est le cas actuellement encore pour cette année avec HBO Max mais version ici Amazon, enfin. Ouais, le cinéma je sais pas vers quoi on se dirige mais j'ai l'impression que à voir si l'après-pandémie va pouvoir permettre de rattraper, corriger le tir, mais là, c'est très rude. Hein. Le nombre de films, surtout qu'il y a un gros décalage entre les films qui sortent aux US et par chez nous, mais le nombre de films qui ont des dates de sortie dans longtemps chez nous, mais qui sont déjà disponibles de manière un petit peu illégale, hein, ça fait mal au cul pour les salles de cinéma, je trouve. Bon, après, moi, ça va pas m'empêcher de les soutenir, hein, ce que j'ai eu fait avec Détective Conan et Conjuring, mais waouh, ça fait mal, et ça fait peur, ça inquiète vraiment. Bon, pour autant, ça nous empêche pas d'avoir quelques bandes d'annonces sympatoches à nous mettre sous la dent, notamment celle de Démonique de Neil Blomkamp. Alors, celle-là, je l'avais pas vu venir, mais quand on l'entend, quand on l'écoute, ou quand on la regarde, il y a quand même une atmosphère un petit peu malaisante. Je vous la passe et ensuite je vais revenir un petit peu dessus, notamment sur l'ambiance sonore. Dropping you in 3, 2, 1. Real.
Can you really be a rock star? Can I? Queen's Lake.
Don't be scared.
Oh, sweetheart.
Do you know what this place is?
C'était donc la bande-annonce de Démonique de Neil Blomkamp. Alors, si, au niveau sonorité, c'est intéressant, mais en même temps, sur certains aspects, ça peut être un peu redondant pour la radio, je m'en cache pas. Mais moi, si j'ai quand même décidé de vous la passer, c'est parce qu'il faut se rendre compte qu'avec une bande-annonce... Et notamment dans un film d'horreur, c'est surtout l'ambiance sonore qui fait tout. Et ici, je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment, même si ça se répète un peu, se prêter de manière idéale, plus que propice même, à la radio. Et c'est pour ça que je tenais à vous la présenter, parce que franchement, c'est... La sonorité de cette bande-annonce, ça rend pas serein, même si les images, tout ça... Enfin... Moi qui suis un grand amateur, j'ai rien vu de bien bien choquant. Mais au niveau sonore, c'est un petit peu malaisant. Et c'est ce qui a fait que j'ai choisi de vous la proposer. Bon, ceci étant dit, moi j'ai pas plus à vous dire. Si ce n'est de soutenir nos salles de cinéma, hein, pour éviter des catastrophes en devenir. Mais avant de revenir justement, hein, sur les salles de cinéma et sur certains films que j'ai pu y voir, je vous propose de passer par les suggestions.
Les suggestions.
Ce mois-ci dans les suggestions, je tenais à vous parler roman, car oui, le 9 juin, c'est-à-dire ben, mercredi là, il est sorti ben, sur une autre plateforme de SVOD, hein, la série Loki. Hein. Le quatrième chapitre, hein, du grand acte 4 du Marvel Cinematic Universe, de la phase 4, Loki, la série Loki. Et avant de se lancer dans la série Loki, il pourrait peut-être être intéressant de lire le roman Loki, les racines du mal de Mackenzie Lee. Je vous en lis un petit synopsis. Une question nous hante depuis des siècles. Pouvons-nous changer notre destin ? Bien avant d'affronter les Avengers, le jeune Loki souhaite désespérément faire ses preuves et endosser le rôle du héros. Dans son entourage, pourtant, tous le soupçonnent d'être mauvais et retors. Exception faite d'Amora, qui n'est pas de Dijon. L'apprentie magicienne d'Asgard semble être son âme sœur, la seule à priser la magie et le savoir, et peut-être avoir ce que Loki recèle de meilleur. Mais lorsque les deux amis provoquent la destruction de l'un des artefacts les plus précieux du royaume, Amora est exilée sur Terre, pas sûr. Dijon, où ses pouvoirs s'évanouiront inexorablement en une longue agonie. En l'absence de la seule personne n'ayant jamais considéré sa magie comme un don, et non comme une menace, Loki sombre peu à peu dans la frustration à l'ombre de son frère Thor, le prince adoré de tous. Des années plus tard, Odin l'envoie sur Terre afin d'élucider une série de morts mystérieuses ayant sans doute été provoquées par la magie. Une enquête qui obligera Loki à explorer le monde du 19e siècle en affrontant ses propres envies et désirs. Au fond, qui veut-il réellement être ? Franchement, c'est un petit roman sympa qui se trouve dans la collection Hachette Heroes. Bon, après, c'est pas de la grande littérature, hein, mais ça fait son petit effet. C'est pas déplaisant, c'est une petite enquête. C'est justement ça qui m'a attiré, c'est le côté enquête, en fait, comme c'est présenté, et qui est bien amené dans le roman, notamment au niveau des différentes relations avec les personnages, et qui permet de développer le personnage de Loki, qui crève l'écran depuis ses débuts dans le tout premier Thor de Kenneth Branagh, si je dis pas de bêtises. Mais, oh là là, le premier Thor, moi, c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Pour moi, c'est un des meilleurs films du Marvel Cinematic Universe, même si pourtant certains viennent à le décrier. Mais ouais, du coup, ce roman, c'est une bonne porte d'entrée aussi. Enfin, ça permet de se remettre un peu dans la peau du personnage de Loki et de l'aborder peut-être d'une certaine manière, d'une toute autre façon dans la série qui porte son nom. À voir s'il y a certains éléments qui vont être repris du roman dans la série. En tout cas, il y a certains certains aspects du personnage, notamment le fait qu'il soit non-binaire, si je dis pas de bêtises, mais soi-disant, la série met ça en avant, mais il y a un chapitre vraiment à proprement parler dans le bouquin qui explique clairement que Loki ne se considère pas comme un lui ou une comme un il ou une elle, mais vraiment il se considère comme une personne à part entière, sans mettre de genre ou sans mettre d'étiquette également sur les personnes qui peuvent l'attirer. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de mettre ça en avant dans une œuvre grand public comme du Marvel. Au moins ça peut permettre, je dis pas que c'est waouh rock'n'roll ou quoi que ce soit, mais ça peut permettre justement d'ouvrir peut-être éventuellement les esprits ou quoi que ce soit, parce que maintenant c'est vrai que les plus jeunes se focalisent justement sur les films de super-héros ou ce genre de choses, donc peut-être que ça peut permettre d'ouvrir les esprits, à voir. En tout cas c'est un bon pied aussi dans les mythes et légendes nordiques, hein. Ça mériterait presque d'en faire une émission à proprement parler, mais moi pour le coup, pour la musique de transition, je tenais à vous présenter un tout autre groupe, un tout autre univers, hein. On va partir du côté de Powerwolf et de son prochain album à venir, Call of the Wild, hein, l'appel de la nature, où justement le premier single qui est sorti le 20 mai dernier s'appelle Beast of Gévaudan. Comme quoi, il n'y a pas que Radio Larzac qui fait des mythes et légendes.
Fear those sword and fear those.
c'était Beast of Gévaudan de Powerwolf. Franchement, c'est presque un regret hein, que ce morceau-là ne soit pas sorti justement au moment des débuts de Mythes et Légendes. Hein. Ça aurait été sympa de la passer. Bon, après, je parle pas plus de Mythes et Légendes. Je sais pas s'il y aura suite ou pas. Mystère. En tout cas, moi, s'il faut potasser le sujet, hein, pourquoi pas en faire une rubrique dans l'émission ben, Showtime à proprement parler. Hein, les mythes et légendes, c'est tellement vaste comme univers et on en parle tellement dans la pop culture, le cinéma et la pop culture, qu'il y aurait moyen de vous faire un petit truc, genre explication d'un petit mythe brièvement avec un film qui traite du sujet. Ouais, ça peut éventuellement se tenter à réfléchir pour la prochaine saison en devenir. Ceci étant dit, j'en dis pas plus, on va passer à l'avis.
L'avis.
Dans le premier avis de ce mois, je tenais à vous parler du film Détective Conan, The Scarlet Bullet. J'avais oublié le « the » avant. Enfin bref. Détective Conan, c'est quoi ? C'est un manga de Gosho Aoyama qui a débuté le 19 janvier 1994. Et ça continue encore aujourd'hui ! C'est vous dire, on en est presque à 100 tomes. Et dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, courant de cette année 2021, la série d'animation a atteint les 1000 épisodes. Et là, on va parler du 24e film. Et il y en a un 25e qui arrive en 2022. Détective Conan, tout un univers. Mais revenons-en au film qui nous intéresse ici, le 24e, The Scarlet Bullet, qui est sorti le 26 mai 2021 et qui a été proposé notamment chez Cinéode, les cinémas de Mio. Merci à vous de nous proposer ce genre de produits qu'on n'aurait peut-être pas spécialement eu par le passé. Est-ce qu'on les aura toujours lorsque ça aura changé de distributeur ? Mais certes ! Mais revenons-en au film, je taclerai le reste un petit peu plus tard. Alors, c'est un film de Shiki Nago Aka à la réalisation. Cette madame avait réalisé déjà le 23e film, Le Point de Saphir Bleu, qui n'est pas encore sorti dans les bacs chez nous, si je ne me trompe pas. Alors, le synopsis de Détective Conan. Comment vous le présenter ? Je vais pas aller par 36 chemins. Par 4 chemins, c'est quoi l'expression déjà ? Je me perds un petit peu, c'est pas grave. Mais je vous passe un extrait du film qui va très bien faire les choses à ma place.
Je m'appelle Shinichi Kudo. J'étais lycéen et détective. Un jour, alors que je me baladais dans un parc d'attractions avec mon ami Ran, j'ai été le témoin d'un étrange trafic orchestré par un homme en noir. Absorbé par la scène qui se déroulait sous mes yeux, je n'ai pas remarqué son complice qui s'approchait de moi par derrière. Cet homme m'a forcé à ingérer une pilule. Et à mon réveil...
J'avais rajeuni d'une dizaine d'années. Si ces individus apprennent que je suis encore en vie, cela pourrait faire courir un grave danger aux gens qui me sont proches. Le professeur Agasa m'a conseillé de rester incognito. Donc, quand j'ai revu Ran, je lui ai dit que je m'appelais Conan Edogawa. Et pour mener mon enquête sur ces mystérieux hommes en noir, j'ai emménagé chez Ran, dont le père est détective privé. Pour m'aider dans cette traque, je peux compter sur l'aide de plusieurs agents du FBI. James Black, André Kamel, Jody Starling et Shuichi Akai. Shuichi est le meilleur tireur d'élite du bureau. Il se fait passer pour Subaru Okiya, un étudiant. Il réside dans la maison de mes parents, c'est-à-dire chez moi. Ça, c'est sa petite sœur, Masumi Sera. Elle est détective et lycéenne comme moi. Et elle est arrivée dans la classe de Ran il n'y a pas longtemps. Elle vit à l'hôtel avec une curieuse petite fille qui pourrait bien être sa mère, Marie Akai. Si, comme moi, son corps a rétréci après avoir avalé la même pilule. D'ailleurs, cet homme, Shukichi Haneda, l'appelle Maman Marie. Ce qui ne fait que confirmer mes soupçons. Il est le frère de Masumi et de Shuichi. Il est sextuple champion de Shogi, un jeu de stratégie japonais. Ces quatre personnes forment donc une famille très impliquée dans toute cette affaire. J'ai perdu des centimètres, mais pas ma faculté de raisonnement. Aucune affaire ne me résiste. La vérité éclate toujours.
C'était un petit peu l'introduction du film, hein, un élément qui arrive après une petite quinzaine de minutes, hein, si l'on peut dire. Parce que oui, les 15 premières minutes servent un petit peu de mise en place de l'intrigue, hein, en devenir de ce long métrage. Une intrigue qui se présente par la synopsis suivante. Le Japon se prépare à accueillir les Jeux sportifs mondiaux, JSM, à Tokyo. Le tout nouveau train à très grande vitesse, hyper linéaire, Japanese Bullet, la balle japonaise, est le premier au monde à opérer dans un tunnel sous vide. Ce bijou de la technologie japonaise, capable d'atteindre 1000 km/h, sera inauguré à l'ouverture des JSM. Lors d'une fête organisée pour les sponsors des jeux, d'étranges incidents ont lieu. Puis, des personnalités sont kidnappées. Conan enquête et trouve un lien potentiel avec les kidnappings qui ont lieu au JSM de Boston 15 ans auparavant. Voilà, donc c'est ce que je disais, hein, ce synopsis, il se résume dans les 15 premières minutes du film, hein, jusqu'à ce qu'il y ait l'écran titre qui arrive et qui justement sert de récapitulatif un petit peu à l'intrigue, hein, ce que j'ai utilisé justement pour vous présenter l'intrigue du manga. Bon, ça sert pas qu'à ça, puisque comme vous avez pu l'entendre, ça sert également de présentation, hein, à la famille Akai qui aura un rôle central dans le film. Et au final, du coup, ça permet de prendre le train en marche. Blague. Mais oui, donc nos persos, ils cherchent au final à réussir à avoir des trains, hein, pour aller sur le linéaire, ce qu'ils vont réussir à faire et ce qui va leur permettre justement d'enquêter. Bon, au fur et à mesure du film, hein, il y a certains personnages secondaires qui vont être un petit peu écartés, notamment je pense aux Shonen Tenteiden, hein, les jeunes détectives, hein, les copains de Conan, hein, les jeunes copains de Conan, Shinichi, mais de Conan, enfin bref. Et du coup, eux, ils vont être écartés, ils vont aller à une sorte de spectacle où il y a un héros masqué, le Kamen Yaiber, qui fait des plein de trucs de fifou, hein. Enfin bref, un spectacle un peu pour bon enfant, hein. Ça permet aussi de faire pas mal de références au tokusatsu, notamment avec le Kamen Yaiber qui fait penser au Kamen Rider, les Shonen Tenteiden, leur présentation, ça fait très Super Sentai, héros colorés type Bioman, Power Rangers, etc. Enfin bref, ces personnages, on va les oublier assez rapidement et on va se rendre compte que l'intrigue, l'enquête, ça va faire évoluer et avancer les relations avec la famille Akai, les différents personnages qui sont propres à l'œuvre. C'est vrai que si on n'est pas vraiment adepte de détective Conan, on peut venir à manquer certaines subtilités, mais au final, le film arrive tout de même à être apprécié et à intéresser. Bon, après, c'est quand même, il y a quand même, tout de même certaines petites coquilles, hein, que je me suis permis de noter tout du long du film. Par exemple, ils disent que les jeux ont lieu tous les 4 ans. Du coup, comment ça se fait que les jeux de Boston aient eu lieu il y a 15 ans ? Est-ce que la pandémie a été prise en compte dans ce film-là ? Parce que je pense que ce film, il devait sortir l'année dernière, sauf qu'il a dû y avoir justement un souci avec la pandémie, hein, ça a dû retarder un petit peu les choses. Surtout que ça aurait fait sens en sachant que normalement les JO au Japon devaient avoir lieu l'année dernière. Là, ça parle de JSM, de Jeux Sportifs Mondiaux, ça fait raccord au truc. Ça permet de se poser des questions. Bon, ça fait pas une grosse incohérence, ça fait réfléchir. Et pour autant, il n'y a pas plus de réponses que ça dans le film. Bon, c'est un petit détail pour chipoter, mais après, il faut pas se mentir, la mise en scène est vraiment de qualité, hein, et ça sert, elle aide vraiment à faire la mise en scène et scénarisant fait avancer au fur et à mesure l'enquête. Et c'est vrai que pour peu que l'on s'intéresse un petit peu à des films de ce genre, ben on se prend au jeu et on cherche à résoudre ce mystère avant les personnages. L'animation, elle, est de qualité, on va pas s'en cacher, hein. Vraiment, ils ont mis les petits plats dans les grands, hein. C'est différent, hein, de certains films, comme j'ai pu voir un autre film d'animation japonais avant. Là, vraiment, c'est beau, hein, c'est de qualité. Ça permet de faire aussi la part belle aux grandiloquents, hein, notamment lorsque Conan utilise ses chaussures et ou ses différents gadgets, ça amène des séquences vraiment de toute beauté. Après, c'est pas justement sans certains défauts. Parce que même si l'animation est de qualité, il y a certains bémols, notamment au niveau du cel shading, surtout lorsqu'il y a des séquences avec de la foule, parce que cette foule là du coup elle a été animée, bon je peux comprendre que ça peut amener une certaine facilité peut-être, mais elle a été animée en cel shading, c'est un procédé qui graphique par ordinateur qui permet de rendre des modélisations 3D avec une sorte de contouring, d'ancrage un petit peu animé manga, et là ça faisait un petit peu grossier, surtout que ces personnages en cel shading, ces modèles 3D, c'était des trucs basiques, hein. Ils adaptaient même pas le caractère design qui est propre à Gosho Aoyama, donc c'est vrai que ça faisait un petit peu ressortir, ça matchait pas, quoi. Après, bon, même si ça peut plaire, c'est pas toujours évident de tout saisir, notamment certains rapports entre personnages, bon, ça, je l'ai déjà un petit peu dit, mais après, c'est ça qui fait bémol, c'est que même si ça peut s'apprécier, ce film, on dirait quand même qu'il a un petit impact, hein, sur l'intrigue générale du manga, à voir comment ça se profile, parce que oui, si on fait pas attention, on peut venir à louper certaines choses dans le générique de fin, notamment beaucoup de scènes post-génériques qui amènent beaucoup de portes ouvertes, à savoir pour le prochain film ou justement pour le manga. Et c'est un petit peu désarçonnant déjà, peut-être de les louper, hein, parce que je pense qu'au cinéma de Mio, il y en a beaucoup qui l'ont loupé, parce que moi, j'ai pu discuter avec un des projectionnistes qui était là en salle, mais il m'a dit qu'il croyait que j'étais l'une des seules personnes à avoir vu le générique en entier, dans son intégralité, parce que ce générique, en fait, j'ai bugué dessus, tout bêtement, parce que je l'ai trouvé superbe, car il mettait en avant les prises de vue réelles qui ont servi à retranscrire certains lieux et monuments et objets qui ont servi à l'action du film. Et franchement, c'était de toute beauté à voir. Après, pour terminer rapidement, c'est superbe, hein, c'est superbe de retourner en salle, franchement, c'est un truc qui a manqué là durant ces nombreux mois, hein. Les basses au cinéma, l'aspect sonore, lorsqu'il y avait des explosions, lorsqu'il y a eu le générique introductif, franchement, c'était superbe. C'était vraiment superbe. On en prend plein les oreilles et ça fait plaisir. Notamment la VF également, VF qui reprend justement les comédiens de doublage qui étaient présents lors des débuts de la série d'animation. Oh là, c'était franchement une VF de qualité comme ça. Franchement superbe. Bon, moi, je pense avoir dit ce que j'avais à en dire du film. En soi, il s'apprécie. Pour moi, il y avait un petit souffle sur la fin. Bien que sympa, mais c'est vrai que la transition entre deux pans de l'histoire, ça coupait un petit peu le rythme. Mais sinon, hormis ça... ça a été un vrai régal, hein, un vrai régal à voir, et ça fait plaisir de voir le cinéma d'animation, du cinéma d'animation japonais, ouais, dans nos salles françaises. Franchement, rien que pour ça, je sais pas s'il est toujours diffusé dans certaines salles ou quoi, mais si vous en avez l'occasion, allez le voir, hein, c'est vraiment un petit régal, et j'espère vraiment que les cinémas de Mio, quoi qu'il advienne, mais continuera à nous proposer ce genre de choses, parce qu'il y a un public. Surtout lorsque l'on pense à ce que fait justement la ville de Mio, notamment avec son club de cosplay qui a quand même réussi à décrocher de beaux titres ou quoi que ce soit. Il y en a eu encore un petit article dans le journal de Mio qui aurait pu aller peut-être un petit peu plus loin, mais au moins ça permet de mettre ça en avant. Enfin oui, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et à voir sur ce pan de la pop culture. Mais d'ici là, moi, j'ai pas plus à en dire. Hein. C'est un film que je recommande. Pas parfait, mais... Enfin, pas parfait, c'est pour chipoter. Hein. C'est un bon divertissement, faut pas s'en cacher. Voilà. Si vous en avez l'occasion, franchement, je recommande. Bonne petite enquête, bon petit film d'animation policier, si l'on peut dire. Donc, j'en dis pas plus. Je vous laisse. Enfin, on se quitte en musique avec... Alors, attention... Avec la fanfare de l'armée japonaise pour une reprise du thème principal de Détective Conan. C'était la fanfare de l'armée japonaise pour une reprise du thème de Détective Conan. Alors là, je crois que c'est pas une fanfare française, qui sait, peut-être. Peut-être une banda, ça serait plus à même de reprendre ce genre de choses. Mais là, quand même, j'étais pas préparé à trouver un son pareil. Bon, le son est peut-être un petit peu bof-bof parce que c'est Pékin, une vidéo sur YouTube. Et bon, bref, voilà, les jeux de la conversion, ce genre de choses, enfin bref. Mais c'est vous dire, le Japon, lorsque l'on voit déjà ce qu'ils font avec la saga Gundam, qui s'exporte jusqu'en Chine, où justement en Chine, ils ont inauguré à Shanghai dernièrement le Freedom Gundam, enfin, tapez Freedom Gundam Shanghai sur YouTube, justement. C'est dingue à voir la vidéo. Franchement, jusqu'où iront les Japonais? Surtout que je crois que, ça remonte, mais je crois qu'ils essayaient de développer dans l'armée japonaise des vrais Gundam. J'ai peur de dire une bêtise, si je retrouve l'article, je vous le dirai peut-être prochainement. Dans une prochaine saison. En attendant, c'est parti pour Conjuring sous l'emprise du diable.
La vie. Sur.
Conjuring sous l'emprise du diable ou de son titre VO The Devil Made Me Do It. Bon, c'est le troisième opus de la saga Conjuring qui a été initié en 2013 avec The Conjuring, sous-titré Les Dossiers Warren hein, dans notre chère langue de Molière, un film piloté par James Wan sorti le 21 août 2013 et qu'à l'époque j'avais pas pu voir en salle parce que chaque fois ça buguait, de quoi rendre le film un peu plus flippant quoi. Enfin bref, fort de son succès, ben, la saga compte aujourd'hui tout de même hein, 8 films en incluant hein, le Conjuring 3. Ce qui nous fait presque un opus sorti tous les ans jusque-là. Bon, on est bien loin de Marvel, mais on est bien face à un univers étendu. Le dernier Conjuring en date, le Conjuring 2, le cas Enfield de James Wan, toujours, est sorti lui le 29 juin 2016. Il aura fallu attendre 4 ans, on va dire 5, hein, parce que normalement ça aurait dû sortir l'année dernière, mais pandémie, tout ça, enfin, pour avoir affaire donc à un nouveau Conjuring. Film sorti ici donc le 9 juin 2021, piloté par Michael Chabez, le réalisateur de la très bonne ironie, Malédiction de la Dame Blanche, qui lui était sorti le 17 avril 2019. Qu'est-ce qui nous attend donc avec ce nouveau Conjuring hein, qui va se recentrer à nouveau hein, sur le couple Warren hein, joué par Patrick Wilson et Vera Farmiga. Conjuring 3, sous l'emprise du diable, retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Pourtant, très aguerris. Dans cette affaire issue de leur dossier secret, l'une des plus spectaculaires, Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Tout un synopsis qui s'illustre avec la bande sonore que voici.
The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil.
You okay there?
Jesus. I think I hurt someone.
In 1981, Arnie Johnson pled not guilty.
We think this family was cursed.
Demonic possession.
I am not going before a grand jury and saying he was possessed by demons.
Whatever happened that day, that was not Arnie.
Color me your color, darling. I know who you are.
Lorraine! Lorraine!
Ed!
You all right?
Bande annonce sonore, mais vous avez compris l'idée. Donc, pour ce qui est de mon avis sur ce film, ben, la première quinzaine, vingtaine hein, de minutes du film permet de mettre en place ben, le synopsis et les différents enjeux avec l'exorcisme de David qui amène une transmission ben, de la possession à Arne. Arne qui l'a un petit peu hein, quand même voulu, hein, histoire de sauver son petit frère. Arrive ensuite l'écran de titre hein, propre à la saga Conjuring, le bel écran de titre hein, avec sa belle police jaunâtre qui permet de placer l'enquête dans la temporalité et joue sur le côté basé sur histoire vraie. C'est ce qui permet un petit peu bah, de... c'est un peu la marque de fabrique hein, des Conjuring, mais ça permet de rendre ce côté basé sur histoire vraie, bah, ça rend le truc hein, d'autant plus concret, réel et d'autant plus effrayant. Donc, cette première partie mais aide aussi à la mise en place d'un handicap physique pour Ed, ce qui permet de rendre le personnage d'autant plus humain et attachant, et ça donne un côté encore plus crédible à sa relation avec Lorraine, où ils prennent soin l'un de l'autre, normal, parce qu'il y a toujours l'inquiétude de Ed vis-à-vis de Lorraine, par rapport à ses visions, choses qui lui avaient fait défaut par le passé. Bon, ça renvoie au premier opus, mais au moins ça fait lien, ça fait sens, et c'est raccord. Ensuite arrive le réveil de Ed, qui va amener l'intrigue à enfin se développer. Du coup, il avertit Lorraine que le démon est toujours là. Et Lorraine, ce qu'elle va faire, elle va prendre le téléphone et essayer d'avertir la famille Johnson, qu'elle va pas réussir à joindre. Mais du coup, elle va avertir les autorités qui vont se rendre sur place et découvrir justement Arne tout en sang. Et c'est ça qui va vraiment amener l'enquête autour de la défense de Arne. Avec ce film, on pouvait s'attendre tout de même à une sorte de film de défense à l'exorcisme d'Emily Rose. Mais non, c'est plus une enquête, un film proche du premier opus qu'autre chose. Je vais pas aller plus loin pour éviter de trop spoiler, mais c'est vrai que le film renvoie quand même à certains aspects qui sont plus proches du premier film qu'autre chose. Après, il a l'intelligence d'amener quelque chose, c'est que sans trop en dévoiler également, mais les Warren vont se retrouver confrontés, si l'on peut dire, un peu à leurs opposés. Du coup, ça va amener une dynamique intéressante dans le film. Après, pour ce qui est de parler un petit peu de l'image, elle est propre, voire un petit peu ocre, jaunâtre. Il y a plusieurs plans sympas, un clin d'œil notamment à l'exorcisme avec le père Gordon face à la maison des Johnson en tout début de film. Le plan séquence habituel pour présenter les lieux du drame. Arne avec en fond des chiens assez excités, je vous laisse découvrir le pourquoi du comment. La séquence de la morgue qui est vraiment sympa, et pour changer, les visions de Lorraine, qui font toujours. Qui matche toujours bien. Après, il y a un défaut aussi qui n'en est peut-être pas vraiment un, c'est qu'il y a beaucoup de séquences de jour. Du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu moins effrayant parce que ce qui arrive de jour, on n'est pas dans un Texas Chainsaw, massacre à la tronçonneuse, mais on peut y voir une sorte de côté glauque, pesant, du style même de jour. Il faut rester sur ses gardes, on n'est pas en sécurité, tout ça. Enfin bref, au niveau des effets visuels, ils sont propres, c'est dans le haut du paquet de ce qui se fait au niveau des films d'horreur. Bon, après, il y a pour chipoter, David a quelques contorsions suite à sa possession, ça fait un peu, la 3D se fait un peu voir. Pour autant, sur la fin du film, vous le verrez, mais il y a un personnage qui a des contorsions. Ça, par contre, c'est vu comme la personne tombe en plus. Enfin, c'est un petit peu glauque. Après, bémol. Là, du coup, je vais répondre aussi un petit peu à la question est-ce que ce film fait peur ou pas ? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de moment de flip, sauf des frissons. On se voit un certain tableau sur la fin du film. Les musiques qui sont importantes dans un film d'horreur sont propres, mais malheureusement un petit peu trop discrètes. On retrouve toujours Joseph Bichara à la compo. Donc, pour terminer rapidement, bien qu'appréciable, le film, il est plus dans le fantasque sorcellerie, ce qui fait moins se rentrer dedans. Arne est malheureusement trop peu présent, s'y attache pas vraiment, de par la thématique, il aurait eu mérité un peu plus de développement à la Emily Rose. Les personnages de John Noble et de l'antagoniste, je vous laisse le découvrir, et je les ai trouvés vraiment intéressants. Et on salue toujours les prestations de Patrick Wilson et Vera Farminga qui font du très bon taf, surtout Patrick Wilson, ça n'a pas dû être évident de jouer un personnage avec un tel handicap physique, vraiment bravo. Donc moi au final c'est un film appréciable, c'est pas un film effrayant, c'est surtout un film d'ambiance, c'est à regret quand même qu'il ne va pas au fond de son idée, qu'il joue pas vraiment la carte à fond du procès. Ça aurait pu être intéressant parce que là du coup on peut lui faire malheureusement le parallèle avec l'exorcisme d'Emily Rose, ce qui était assez mis en avant dans les bandes annonces et c'est ce qui ici pourrait bien lui desservir. Après, ça se regarde et je trouve personnellement, même si, encore une fois, c'est plus un film d'ambiance qu'autre chose, il se met tout de même dans le haut du panier de ce qu'a fait le Conjuringverse jusqu'ici. Après, se pose la question de savoir s'il faut vraiment faire un Conjuring 4 ou arriver à un moment ou à un autre à conclure les histoires mises en place avec les différents esprits vengeurs ou quoi que ce soit qui font partie justement des monstres, entre guillemets, du Conjuringverse. À voir, hein. Moi, encore une fois, film appréciable qui mérite d'être vu, mais qui marquera peut-être pas les esprits. Faudrait peut-être que la saga se renouvelle. Bon, bref, ceci étant dit, moi j'en dis pas plus. Je vous laisse en musique avant de vous retrouver pour la conclusion de ce dernier épisode de la saison. C'était Sowing Curses de la bande originale de The Conjuring, The Devil Made Me Do It ou Sous l'emprise du diable de Joseph Bichara. Moi j'ai pas plus à en dire, je pense que ça se sera vu un petit peu, mais oui j'ai un peu plus synthétisé, j'ai pris des notes hein, pour les films pour essayer de faire un truc un petit peu plus propre. Je préfère, c'est pas du full écrit mais ça amène une meilleure... ça fait plus propre à l'écoute, je trouve. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que je vais repartir sur ce principe-là de prendre des notes pour les films. Ça permettra de vous proposer des avis plus concrets, plus intéressants, plus propres. Enfin, bref. Voilà, moi, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Du coup, oui, cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère que cet épisode, que cette saison de Showtime vous aura plu, tout comme j'ai pris plaisir à l'enregistrer, à vous partager ces moments ciné, même si ça a été un petit peu compliqué au cours, une fois, de cette saison, avec pandémie, tout ça. En croisant les doigts pour que les choses repartent bien pour la suite, pour la rentrée. Donc moi j'ai pas plus à vous en dire, mais oui, si vous avez quoi que ce soit à dire sur l'émission, avis, suggestions pour la suite, n'hésitez pas à m'en faire part par mail à l'adresse suivante showtime@radiolarzac.org ou showtime.radiolarzac@gmail.com. Tant que c'est des avis constructifs pour la suite, ça peut que faire plaisir, et moi je prendrai plaisir à discuter avec vous, à échanger avec vous. Il y a la page Facebook du Chafouineur, c'est une page pour ma chaîne YouTube, mais également pour l'émission, donc n'hésitez pas à la suivre. Moi je vous remercie auditeurs pour m'avoir écouté, soutenu encore cette saison. Je remercie Radio Larzac pour toujours donner sa chance au mainstream. Passez un bon été, prenez soin de vos proches, tout ça, hein. J'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine.